Ce matin, j'aimerais qu'on reste un tout petit peu dans un terrain qu'on connaît bien, un terrain qui nous est connu. Je ne vais pas aller trop loin dans des questions peut-être un petit peu plus épineuses, surtout quand il y a de la neige dehors et tout ça. On a intérêt à rester un tout petit peu près de la maison et puis ne pas s'aventurer trop trop loin. Mais il y a toujours un bienfait à rester un tout petit peu en terrain connu. Moi, il m'arrive quelquefois, il y a des chemins que j'ai pris et repris des dizaines et des centaines de fois. Et si vous me demandez qu'est-ce qui se trouve à 100 mètres après tel virage ou les choses comme ça et tout, je ne suis pas certain que je pourrais vous dire exactement ce qu'il y a. Et pourtant, ces chemins, je les ai faits, je les ai refaits, de jour, de nuit, toujours les yeux ouverts. Mais il y a des détails que je n'ai pas relevés. Et je crois qu'il en est parfois avec la parole de Dieu. Et donc ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte que vous connaissez certainement très bien, parce que c'est des textes qu'on a lus, qui portent du sens par rapport à ce que nous croyons. Et c'est une parabole que le Seigneur a dite, et qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, mais cette parabole se trouve aussi dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Et il nous est dit ici, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Puis une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Et puis une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Puis quelques versets plus loin, il parle à ses disciples et il dit, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Enfin, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et lui, il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. » Je pense que tout le monde ici connaît ce texte. C'est un texte qui n'est en lui-même pas très difficile à comprendre. Le semeur, c'est le Seigneur. La semence, c'est la parole. Et puis les hommes, c'est les différents terrains. Et puis, il y en a trois qui sont des terrains pas très propices pour entendre la parole. Et cette parole ne produit pas grand-chose. Et puis, il y a un terrain qui, lui, est meilleur. Et cette parole, donc, dans un sens où cette semence peut s'enraciner, et puis ensuite, elle porte du fruit. Ce n'est pas très compliqué comme texte. On a touché du doigt l'enseignement principal de ce que nous dit ce texte. Pourtant, il me semble que souvent dans nos milieux, parce qu'on a tellement porté l'accent sur la prédication de la parole comme étant cet appel à la conversion, que souvent on a plaqué sur ce texte une interprétation relativement simple et superficielle de dire, bah oui, les trois qui n'ont pas entendu sont les gens qui résistent à la parole de Dieu et qui ne veulent pas se convertir, et puis ceux qui ont entendu la parole et cru, bah c'est ceux qui ont reçu la parole dans la bonne terre. Et puis nous qui sommes ici aujourd'hui, bah on est dans les quatrièmes, et puis ceux qui sont là-bas dehors, qui ne sont pas au culte ce matin, bah ils sont dans les trois premières catégories. Et voilà. Voilà comment souvent on va s'arrêter un petit peu sur ce texte. Et puis dans notre tête, on ne va pas nécessairement creuser plus loin. Et j'utilise le mot creuser exprès parce qu'on va parler de terrain. Parce qu'en fait, Jésus, lui, dans ce texte, à un certain moment, il met ses disciples en garde. Et il leur dit, faites donc attention à votre façon d'écouter. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ça, c'est le genre de verset qui n'est pas toujours facile à comprendre. Jésus, il dit, faites gaffe, parce que vous pensez comprendre. Vous pensez avoir tout saisi. Et puis, il dit cette parole un petit peu énigmatique, celui qui a, on lui donnera encore, ça, moi, j'arrive à comprendre. Mais celui qui n'a pas, on lui enlèvera. Ça, j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, mathématiquement, c'est difficilement compréhensible. Et Jésus nous met en garde. Nous met en garde que il faut bien saisir ces paraboles. Il faut les laisser, dans un sens, pénétrer dans notre cœur et les méditer. Parce que c'est seulement à travers la méditation, dans un sens, qu'on va pouvoir dépasser cette impression que nous avons qu'on a tout compris pour capter peut-être ce que le Seigneur a dit de plus là-dedans. Parce qu'on pourrait toujours se dire, un rabbin à l'époque qui s'assoit comme ça sur une colline et qui dit, ben voilà, le royaume c'est un petit peu comme ça. Ben, les gens ils disent, ben on s'est déplacé pour ça, c'était pas très difficile à comprendre. Et là, Jésus il dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Et en fait, lorsqu'on prend un tout petit peu de temps pour regarder ces différentes images et les différents éléments qu'il y a dans cette parabole, on se rend compte que toute l'écriture résonne des mêmes thèmes. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on va retrouver des échos de cette parabole qui nous disent, prêtez attention, parce que ce que le Seigneur lui a révélé dans sa parole est complet, est riche, est profond. Et donc prenez le temps de méditer un petit peu ce qui est dit là-dedans. Et je dirais ça d'autant plus que Jésus n'a pas simplement dit quand le semeur sème, bon, de temps en temps, il ne fait pas gaffe, et puis ça tombe à côté dans une mauvaise terre, et puis là, c'est tous les incroyants, ils ne croient pas, et puis c'est terminé. Mais il y a une bonne partie qui reste là, et puis ça pousse. Il n'est pas en train de dire il y a du noir, du blanc, du bon, du mauvais, des incroyants et des croyants. Il s'amuse à nous donner quatre descriptions différentes de la façon dont la parole peut être reçue. Et ça devrait nous arrêter. Parce que le monde n'est pas fait simplement de croyants et d'incroyants. Et notre vie n'est pas simplement faite qu'un jour on s'est converti, on est dedans, on a tout compris et tout va bien, tandis qu'avant on était en dehors, on n'avait rien compris et tout allait mal. Il y a des nuances de gris, il y a des nuances de progression. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps pour méditer et qu'on laisse ce texte un petit peu rentrer dans notre cœur. Et qu'on se pose des questions un petit peu sur ces quatre façons, ces quatre terrains qui nous sont proposés ici. Mais la raison pour laquelle je voulais le faire, ce n'est pas tellement pour vous dire ce matin, vous savez, vous n'avez pas vraiment compris ce que dit la parole, puis est-ce que vraiment vous laissez cette parole rentrer dans votre cœur, et puis toujours en train de se dire, est-ce qu'on fait toujours assez bien? Ce n'est pas mon propos. Parce que mon propos ce matin, c'est tout simplement de nous dire la parole que nous avons reçue. C'est ce trésor dont Jésus va parler aussi un peu plus tard dans une autre parabole. C'est ce trésor. Nous, on a l'habitude de voir la parole dans un bouquin. C'est écrit, il y a différentes versions. On fait des études de grammaire, on cite des versets. Mais lorsqu'on pense à ce qu'est la parole qui nous a été donnée, lorsqu'on pense à ces différentes dimensions, différentes connotations de ce que ça représente, c'est là où on prend conscience que c'est un véritable trésor. Parce que la parole qui nous est... Si c'est appelé la parole, c'est parce que c'est à quelqu'un qui l'a prononcée. Et ce quelqu'un qui l'a prononcée, c'est quelqu'un qui a voulu établir cette relation avec la personne qui écoute. Et lorsque Dieu elle a prononcé sa parole, qui aujourd'hui est écrite dans une Bible, son intention, c'était tout simplement, j'ai envie de vous dire quelque chose. Alors il nous dit beaucoup de choses. Mais fondamentalement, ce qu'il nous dit une bonne nouvelle. Et lorsque nous pensons à la parole, la première chose à laquelle nous devrions penser, c'est celui qui l'a prononcée. Pas simplement, est-ce que je comprends bien le grec et l'hébreu, et puis est-ce que c'est une bonne traduction ou pas une bonne traduction, ou quoi que ce soit. Mais la première des choses, c'est de se souvenir que Dieu a parlé parce qu'il voulait entrer en communication avec nous. et nous dire des choses, et fondamentalement nous dire des choses qui sont belles, qui sont bonnes, et qui sont des bonnes nouvelles pour nous. Ainsi, nous devrions constamment, comme David dans le psaume 119, se réjouir de toutes les dimensions de cette parole, parce que c'est Dieu qui est derrière cette Bible, qui est en train de parler. Mais l'autre chose aussi, c'est que la parole, c'est bien sûr, c'est une personne qui parle, mais la parole ici, nous avons aussi cette dimension dans l'écriture où c'est la révélation. Et là aussi, le mot révélation, on l'a utilisé de façon tellement technique et tellement mystérieuse que c'est devenu un terme théologique qu'il faut prononcer de temps en temps. Mais fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne savions pas qui nous sont nécessaires et que Dieu nous révèle. Et Dieu nous les donne pour que nous puissions les connaître et pour que nous puissions nous associer à lui dans cette même connaissance. Et c'est là, lorsque Jésus il dit, moi je vous ai dit tout ce que le Père m'a dit, je vous ai tout révélé ce que lui m'a donné, et c'est pour ça que je vous appelle frère aujourd'hui. Il y a cette proximité dans la révélation. Et puis, à plusieurs endroits, nous avons la parole qui est cet agent actif de vie en nous. La parole produit la vie en nous. Parce que c'est une bonne parole, parce que c'est une parole qui est sage, parce que c'est une parole qui est vraie. C'est une parole qui nous nourrit, qui nous guide, qui nous affermit, qui nous corrige, qui nous prévient des erreurs dans lesquelles nous pouvons tomber. Il y a une dimension extrêmement pragmatique à la parole. Il y a un élément de vérité et de vie. Et c'est là où l'apôtre Pierre dit, vous êtes en effet né de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable par la parole vivante et permanente de Dieu. La Bible que nous lisons, la Bible que nous méditons, la Bible que nous comprenons, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est cet agent vivifiant que nous avons en nous. Enfin, tout ce contexte de cette parabole et toutes les autres paraboles se trouvent dans ce qu'on appelle les paraboles du royaume, qui sont en fait, Dieu sème sa parole dans le cadre de son projet qui est d'instaurer son royaume et son règne, un projet géopolitique. Dieu est en train de revenir à la charge et de reprendre le contrôle de sa création et de nos vies. Alors là aussi, la notion de règne de Dieu, à force, ça prend des... On pense à règne de Dieu en se disant, ben, très bien, le monde dehors, il n'est pas bon, etc. Et tout, ça sera bien le jour où Dieu règnera sur ce monde pourri qui est là dehors et on aura raison. Ou alors le règne de Dieu, ouais, je veux bien, mais enfin, ben, il m'embête quelquefois, Dieu, etc. Et tout. Donc un Dieu qui règne en moi, c'est... Mais quand on y pense un tout petit peu aujourd'hui, nos politiciens, c'est facile de taper sur les politiciens, mais tapons sur les politiciens, ils ne savent pas toujours quoi faire. Qui conduit notre pays? Qui a la capacité aujourd'hui de nous dire ce qu'il faut faire dans nos vies, de comment conduire ce peuple, de prendre les bonnes décisions, d'anticiper sur ce qui va se passer? Et nous sommes tous, quelquefois dans un désarroi, en disant « mais fondamentalement, il n'y a personne, ou que les banques aujourd'hui qui conduisent quelque chose ». Et tout le monde a une idée différente. La Grèce aujourd'hui a décidé de partir dans un sens, et puis il y a Angela Merkel qui part dans l'autre sens. Et pourtant, c'est deux leaders européens. Et quand on pense le règne de Dieu, c'est Dieu qui se propose de venir et d'être notre chef pour nous conduire là où nous avons besoin d'être conduits, là où nous voulons être conduits, d'être protégés, d'avoir quelqu'un qui anticipe, quelqu'un qui peut nous dire « va par ici, va par là ». Et là, on a toutes les images donc, du berger et du chef, etc., du roi, qui nous reviennent de la Bible, qui sont des images pour ça. Et donc, il y a toute une dimension extrêmement positive au règne de Dieu et au royaume de Dieu dans nos vies et dans le monde. Et c'est ça le trésor. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce texte. Parce que fondamentalement, c'est une question de à quel point est-ce que cette parole qui est tellement belle et bonne pour nous, À quel point est-ce que nous la laissons rentrer dans le terrain que nous sommes pour en fait être tout ce que le Seigneur a voulu, c'est-à-dire que nous le connaissions personnellement, que nous soyons introduits dans les mystères qu'il a et qu'il nous a révélés, et que par elle nous puissions vivre. Et là, je vous encourage à relire ce psaume de David, à quel point il cite tellement d'exemples où la parole de Dieu, dans les circonstances de chaque jour, a été une aide pour le fortifier, pour le guider, pour résister à la tentation, pour tenir ferme lorsqu'il était abattu ou critiqué par des gens de l'extérieur, ou tout simplement lorsqu'il avait ses propres moments de doute et de découragement et qu'il méditait sur la parole de Dieu. Ou lorsqu'il sentait bien que le péché était encore là, qu'il luttait avec, mais qu'en prenant appui sur la parole et en se laissant instruire par elle, il arrivait à se sortir de ces situations difficiles. C'est un psaume extrêmement pratique lorsqu'on pense à l'utilisation et la présence de la parole dans sa vie. Alors j'aimerais passer en revue simplement ces quatre terrains ensemble pour comprendre un peu mieux ce qu'il y a là derrière. Et de se dire, encore une fois, ce n'est pas une question de les convertis, les inconvertis, puis que nous on est dans le quatrième terrain et que les autres y sont ailleurs. Nous sommes quelque part partout dans ces terrains. À différents moments de notre vie, on est une terre qui n'absorbe pas. Il y a d'autres moments de notre vie, oui, on est une terre qui reçoit pleinement la parole et qui est. Et là, je pense que le Seigneur nous demande de méditer cela et de savoir un petit peu ce qu'il en est. Donc le premier terrain, c'est ce terrain qui est dur. C'est ce terrain, en fait, qui n'a pas été labouré. C'est ce terrain qui n'a pas été préparé, en fait, pour recevoir la semence. Et c'est peut-être un terrain, tout simplement, sur lequel tout le monde a piétiné, marché. La pluie a coulé dessus et le terrain est devenu de plus en plus dur, de plus en plus dur. Il est parfaitement inutile de semer sur un terrain pareil parce que de toute façon, les racines ne prendront pas. Et la terre peut être très dure, avec de l'eau, avec du soleil, et des gens qui marchent dessus. Et Jésus, il donne l'explication lui-même de ça. Il dit, lorsque quelqu'un entend la parole du règne et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a été ensemencé le long du chemin. Et là, je cite l'explication que Jésus donne dans Matthieu. Et donc ici, c'est en fait la personne qui ne comprend pas ou qui ne voit aucune raison d'écouter cette parole. Et figurez-vous qu'il y a beaucoup de monde comme ça. Et peut-être aujourd'hui, c'est plus facile de s'en rendre compte. Parce que les gens, oui, ne vont plus à l'église, ne sont plus nécessairement élevés. Je ne dis pas qu'ils sont pires que les gens qu'avant, hein, mais je dis simplement, on le voit mieux aujourd'hui parce que des personnes arrivent à vivre sans même se poser la question de Dieu, sans même se poser la question de la Bible, à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Et j'ai même l'impression que les gens discutent encore moins des religions, à savoir si une religion ou une autre, c'est un peu mieux que d'autres. Moi, quand j'étais étudiant ou lycéen, on discutait beaucoup de ces choses-là parce que c'était encore un environnement où les gens pratiquaient. Mais aujourd'hui, les gens ne pratiquent pas et apparemment s'en sortent. Et c'est là où on peut se trouver à certains moments de notre vie ou dans certains aspects de notre vie en se disant « mais je ne vois pas ». En quoi la parole m'est utile? Et là, si vous regardez à différents aspects de votre vie, que ce soit votre vie intérieure, que ce soit vos relations avec des gens, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit votre rôle en tant que citoyen, est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels, tout simplement, on se dit « mais la parole de Dieu, elle m'apporte quoi là ?» Elle m'apporte quoi? Elle m'éclaire. Comment? Et c'est même pas que je veux pas, mais qu'est-ce que Dieu il me dit à propos de comment je dois faire mon travail sur un PC ou dans une banque ou je sais pas où. Il y a des domaines comme ça tout simplement où par défaut on peut peut-être se dire ben non tout simplement ben le Seigneur où je ne creuse même pas, je ne cherche même pas parce que je me dis ben non la parole elle ne m'éclaire pas là-dessus. Mais peut-être il y a aussi des domaines de notre vie où tout simplement, à cause de nos propres émotions et dans notre vie intérieure, on va bloquer sur certaines choses. Et là, on va dire, le Seigneur et la parole, ouais, je sais, mais tu sais quoi, non. Et là, oui, des éléments qui nous ont peut-être fait mal dans le passé, on porte des cicatrices de certaines choses, des rancœurs. Et on se justifie, on se dit, ouais, et non, et on ne laisse pas la parole venir dans un sens nous parler et peut-être commencer à ameublir cette terre et nous aider peut-être avec le temps à trouver une solution. Et c'est là où Jésus il dit, la parole, elle est là, mais elle n'a pas d'effet. Parce que vous ne croyez pas qu'elle peut avoir un effet. Ou parce que vous refusez qu'elle peut avoir un effet. Et c'est là où l'Écriture nous invite constamment à nous laisser labourer et à labourer notre vie et notre vie entière. Et là, de nouveau, David nous aide beaucoup. Et ces versets que j'ai déjà cités par le passé, mais qui sont extrêmement forts, où il prie, « Sonde-moi, Seigneur, mets-moi à l'épreuve. » Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. C'est des prières où David tout simplement dit, Seigneur, il n'y a... Même les choses que je ne connais pas en moi, je te demande d'entrer et de faire le jour et de m'expliquer pour régner dessus ou pour m'aider à ne plus pécher même lorsque je ne m'en rends pas compte. Et ça, c'est le premier terrain. Et moi, lorsque j'examine ma propre vie, c'est vrai qu'il y a des domaines qui sont plus réservés au Seigneur que d'autres, puis il y en a d'autres qui... Je garde un petit peu plus le contrôle. Peut-être parce que je pense que le Seigneur n'a rien à dire là-dedans, parce qu'on ne m'a jamais enseigné là-dedans, ou peut-être parce que c'est des choses qui me font encore un petit peu mal et que je me dis, je n'ai pas envie de remuer ça. Je n'ai pas envie de remuer ça pour l'instant. Et là, le Seigneur, il dit, j'ai une parole qui peut t'aider, mais elle ne peut pas porter de fruits parce que ce terrain, tu n'es pas en train de le labourer. Tu n'es pas en train de le labourer. Je vous invite à quelques instants de silence et que chacun prie peut-être dans son cœur. Soit pris cette prière de David en disant « Seigneur, je te demande de me sonder. » Ou alors il y a peut-être quelque chose dont vous êtes parfaitement conscient pour vous-même. Et de dire « Seigneur, je te fais confiance et j'entends ta parole. Et je te demande que ta parole puisse commencer à travailler cette partie-là de ma vie. » Et je sais qu'avec le temps et ensemble, on arrivera à le surmonter. Mais je vous invite à prendre quelques instants de silence avant qu'on passe au deuxième. Seigneur mon Dieu, je prie que dans notre Église, nous puissions entendre ta parole et que nous puissions tous ensemble, Seigneur, et chacun pour nous-mêmes, prier que tu nous sondes, parce que ta parole est une parole vivifiante. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous baissons la garde et nous te demandons, Seigneur, d'entrer dans tous les recoins de notre vie avec ta parole qui est une lampe et que tu nous aides, Seigneur, à nous laisser travailler par toi, et ton esprit, afin que ta parole porte du fruit dans tous les aspects de notre vie. Amen. Le deuxième terrain, c'est ce terrain pierreux, dans lequel tombe la graine, et puis elle pousse un petit peu, puis il y a le soleil, etc. Et, tout, et puis en fait, elle fane, et elle tombe. En fait, si on lit le texte de Luc, et la façon dont Luc nous le rapporte, lui nous dit que, c'est une autre partie de la semence qui tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle se dessécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Et donc ici, les commentateurs sont relativement d'accord pour dire que c'est globalement une terre, mais qui est très peu profonde. Il y a quelques centimètres et puis juste en dessous, c'est de la caillasse. Quoi. Je veux dire vraiment de la caillasse. Donc la semence qui tombe dedans, elle va profiter de ces quelques centimètres de terre qu'il peut y avoir. Elle va commencer à plonger ses racines, à éclore un tout petit peu, mais bien vite, elle va se retrouver contre quelque chose qu'elle n'arrivera pas à percer. Et le Seigneur donne ensuite son explication. Il dit « Celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une cause de chute. Et là, souvenez-vous un petit peu ce que Jésus lui a rencontré aussi. Il a rencontré ça dans son ministère. Vous savez, lorsqu'il a commencé à multiplier les pains et les poissons. Et il y avait une foule qui le suivait partout, etc. Et les gens reviennent. Mais sauf que la joie qu'ils ont et la consécration qu'ils ont vis-à-vis de Jésus ne naît pas, en fait, d'une véritable compréhension de ce que Jésus est en train de dire. Et Jésus se retourne vers eux et leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et ici, lorsque Jésus dit, vous avez, non pas parce que vous avez vu des signes, ils n'ont pas voulu voir derrière le miracle le signe qui renvoyait à quelque chose de plus grand encore, qui était que Jésus lui-même était le pain de vie. Et ils se sont arrêtés à la première des choses qui leur provoquait une grande joie. Je vous ai donné à manger, vous avez été rassasiés. Et Jésus poursuit un peu plus tard et dit, mais c'est moi qui suis le pain de vie. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Et là, on a un exemple clair et net de gens qui se tournent vers le Seigneur, qui acceptent, qui chantent, qui vont à l'église, etc. et tout, pour les bienfaits immédiats qu'ils peuvent avoir. La communion fraternelle, ils ont trouvé une famille où le Seigneur les a guéris peut-être à un moment, où le Seigneur les a sortis de la panade à certains moments. Mais ils n'arrivent pas à voir au-delà. Ils n'arrivent pas à voir comme la femme samaritaine, lorsque Jésus lui dit, moi je te donnerai à boire, et ce que je te donnerai, cette eau, elle deviendra une eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. Et la femme samaritaine, elle va plus loin que simplement l'eau qui se retrouve dans le puits, et elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Elle, elle a compris. Et elle va au-delà. Et donc, le trésor et la joie que nous devons avoir dans l'Écriture n'excluent pas le fait qu'à un moment ou à un autre, il faut faire nos comptes et dire, tu sais quoi, moi je laisse de côté ce que j'ai maintenant parce que j'ai trouvé mieux. Et c'est la parabole du trésor qui nous est donnée un peu plus tard, dans le même chapitre, où il est dit que le royaume de Dieu, c'est comme celui qui a trouvé un trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il vend tout ce qu'il a pour acheter le terrain dans lequel se trouve le trésor. Et ça, c'est une des vérités de la Bible, c'est que quelque part, notre venue au Seigneur et notre suivre le Seigneur comporte des choix qui vont au-delà de tous les petits bienfaits qu'on peut avoir. Alors Dieu nous donne beaucoup de petits bienfaits, mais si nous nous arrêtons à suivre le Seigneur simplement parce que les choses vont bien dans notre vie et qu'il nous donne ce que nous voulons, on n'a fait que gratter la surface. Et on n'a pas encore touché le fond. Et c'est pour ça qu'au moindre coup de chaud, le coup de soleil, la plante fane. Parce que la personne s'en offusque en disant « Mais Seigneur, je pensais que... » Non mais attends Jésus, si toi tu arrives à multiplier les pains et les poissons, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça tous les jours? Je veux dire, en plus ça ne te coûte rien, tu n'as même pas besoin de créer un business, tu donnes à manger à tout le monde et puis voilà. Et le Seigneur, il dit, ben là, vous n'avez pas compris. Et la cause de tout ça, c'est que vous n'avez pas de racines en vous-même, il nous est dit. Ou alors, d'autres images qui sont utilisées, c'est ce fondement sur lequel on construit. Vous savez, encore cette parabole qui est donnée sur le fou qui bâtit sur du sable. Et puis après, il y a le sage qui bâtit sur du roc et tout ça. Et ça, il nous est appelé, ici, nous sommes appelés dans un sens à pas simplement nous épanouir de façon visible et puis au-dessus, mais surtout à plonger nos racines et s'assurer que nous sommes bien debout sur deux pieds bien ancrés, que nous savons en qui nous avons cru, nous dit l'apôtre Paul. Parce que le jour où il y aura le coup de chaud et le soleil, eh bien nous tiendrons, et encore plus le coup de chaud, ben c'est le soleil qui lui aussi aide à la croissance. Et là, le Seigneur, il dit, faites attention que vous n'avez pas simplement entendu la parole, que vous l'avez reçue avec joie, c'est bien, etc. et tout, mais faites attention que vous ne restez pas simplement en surface, mais que vous plongiez vos racines profondément, parce que c'est à ce moment-là que vous allez tenir. Et les racines d'un arbre, c'est ce qui lui garantit de la stabilité, c'est ce qui lui permet de croître, mais c'est aussi ce qui va nourrir l'arbre. Alors à quel point aujourd'hui est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de revenir sur un certain nombre de sujets bibliques, etc. et tout, parce que c'est intéressant, ou parce que vous n'avez jamais vraiment compris, que vous dites, tiens, ça me gêne tellement qu'il faut peut-être que je recommence. Et moi, j'arrive quelquefois à voir dans les églises, on revient sur les mêmes sujets, et on les représente de nouveau les mêmes sujets, comme si les gens ne les avaient jamais nécessairement appris. Puis après, ils vont entendre un autre prédicateur qui, lui, peut-être a une autre vision sur le sujet, ou un autre prédicateur, et les gens tourneront un petit peu sur le même sujet. Mais quand est-ce qu'ils arriveront au point où ils pourront se dire, je sais en qui j'ai cru, je sais, et je bâtis ma vie sur ce que j'ai là. Et c'est pour ça que, lorsque la plupart des disciples sont partis et ont quitté Jésus, ben Jésus il se tourne vers Pierre puis il dit ben « Pierre, tu ne veux pas partir toi non plus ?» Puis Pierre, non, il a compris, lui et les 12 et les 11. Il sait ce qu'il y a derrière. Il dit « Non, parce qu'en fait, ce n'est pas simplement ce que tu nous donnes à manger tous les jours, c'est plutôt parce que toi, tu as les paroles de la vie. Tu as ce qui est essentiel. Et nous, nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. » Pierre est allé au-delà de tout ce qu'il avait au quotidien dans sa relation avec le Seigneur pour dire, il y a l'essentiel là. Alors nous aujourd'hui, je veux dire, on est dans une église, les choses vont bien, on est dans un pays libre, on n'est pas persécuté, allez, dans l'ensemble les choses vont bien. Mais je veux dire, au-delà de ça, est-ce que nos racines plongent plus loin que ça ? Et dans l'Écriture, nous sommes invités à nous enraciner dans plusieurs choses, et là je vais en citer simplement quatre. La première ou une des premières, c'est l'amour. Nous sommes appelés à nous enraciner dans l'amour et que le Christ habite dans votre cœur par la foi, nous dit l'apôtre Paul, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. L'amour que vous recevez du Seigneur, l'amour que vous portez au Seigneur et l'amour que vous portez les uns les autres. Combien de fois est-ce que notre amour les uns pour les autres ou pour le Seigneur est dépendant des circonstances ? Mais ici, ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est d'aimer quelles que soient les circonstances. Parce que cet amour s'enracine dans l'amour que Dieu nous porte, qui, indépendamment des circonstances de notre propre péché, de notre rébellion et tout ça, nous a aimés. Et il dit, votre amour, qu'il soit fondé là-dedans. Ayez de l'amour les uns pour les autres, comme je vous ai aimés. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et non pas en fonction des circonstances, qu'elle est belle, qu'elle n'est pas belle, qu'elle est... Voilà. Comme le Christ a aimé l'Église. La deuxième chose dans laquelle nous sommes appelés à être enracinés, c'est en Jésus lui-même. À quel point est-ce que Jésus est votre ami ? À quel point est-ce que c'est quelqu'un à qui vous sentez une intimité, à qui vous pouvez parler, que vous parlez littéralement comme à un ami ? Les protestants, on les a appelés les tutoyeurs de Dieu, hein, les gens qui trop près de Dieu, là, hein, ils manquent de révérence un tout petit peu. Oui, parfois, mais ça ne fait rien. Jésus dit quand même, moi je suis votre ami, même plus que ça, je suis votre frère. Et ici, il nous a dit, enracinez-vous et construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. Dans notre relation même avec le Seigneur, afin que, encore une fois, quoi qu'il arrive, comme l'apôtre Pierre ici, il dit, ben voilà, tout le monde s'en va, tu ne multiplieras plus le pain, peut-être pas, etc. et tout, mais tu sais quoi, ça ne fait rien, moi je reste parce que toi, tu es le Saint de Dieu et tu as les paroles de la vie. Moi, je reste avec toi. Enracinez-vous dans votre espérance, nous est-il dit là aussi. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions supérieures qui demeurent, nous est-il dit dans l'épître aux Hébreux. Et ici, c'est de savoir regarder au-delà des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Espérer contre toute espérance, nous est-il dit avec l'exemple d'Abraham, lorsqu'il allait sacrifier son fils, puis il dit, attends, moi j'ai quand même bien compris que mon fils était le fils de la promesse, et Dieu me demande maintenant de le sacrifier, il y a des choses qui ne font pas sens, mais tu sais quoi, je vais continuer à espérer contre toute espérance. Et à quel point est-ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui, presque avec certitude, quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, je continuerai à espérer. Je continuerai à espérer. Je me demande quelquefois ces prisonniers de Daesh avec tous les trucs macabres qu'ils font. Pendant des jours, ils doivent se demander qu'est-ce qui va m'arriver. Est-ce que dans ces circonstances-là, on aurait notre espérance qui serait tellement enracinée que même indépendamment de notre volonté, on n'arriverait pas à la faire chavirer? Mais c'est à cela que nous sommes appelés. Que la parole puisse bâtir et fonder et souder ses racines et ses fondements en nous au point où nous sommes inébranlables, même dans les arènes devant les lions ou sous le couteau de Daesh. C'est à ça que nous sommes appelés. Et puis évidemment, ça vous le savez aussi, mais c'est être enraciné dans la connaissance des Écritures. Être enraciné dans la connaissance des Écritures, et là peut-être aujourd'hui, c'est vrai, on peut entendre toutes sortes de choses sur les Écritures, à droite et à gauche, on peut entendre plein de personnes qui parlent sur Internet, des vidéos, des machins comme ça et tout. Et franchement, il y a des choses qui sont bien, et franchement, il y a des choses qui sont un petit peu uluberlues, quoi. Mais ici, il nous est dit, soyez vraiment enracinés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez dépassé des choses de base? Elles sont bonnes, elles sont toujours bonnes, mais je veux dire dépasser pour aller plus loin dans votre connaissance des Écritures et de pouvoir vous dire, bah, très bien, maintenant je vais progresser un petit peu là-dedans. Chers amis, nous sommes appelés à prendre racine. Et je vous demande pour vous-même, est-ce que vous avez l'impression que, encore une fois, si les circonstances devaient changer totalement, vous surprendre demain matin, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous connaissez vous aiderait à tenir ferme? Et n'oubliez pas une chose, hein, c'est qu'il y a certains arbres, vous pouvez les couper bien ras et ça repartira. Vous pouvez les couper bien ras et ça repartira. Et c'est l'image qui nous est donnée en fait de Jésus, cette petite racine qui sort du tronc de Jessé, parce que le tronc de Jessé, il a été malmené, coupé, il ne restait presque plus rien. Et puis, c'est reparti. Mais si vous n'avez pas ces racines, vous ne repartirez pas. Et là, nous sommes appelés à être enracinés. Troisième terrain, les ronces. Et Jésus, il dit... Ce sont les préoccupations et l'attrait du monde. Et en fait, ici, pour bien comprendre, c'est la semence, elle est semée dans une terre en fait, où il y a d'autres semences qui vont pousser à côté plus vite, plus dru, plus rapidement, plus à côté, et elles vont étouffer la bonne semence. Et ainsi, il y aura peut-être une plante, mais qui n'aura que les feuilles et qui n'aura pas assez pour aller porter du fruit. Ou alors ce sera de petits fruits qui ne mûriront pas. Moi j'ai vu ça cette année, moi sur mon arbre, mon pommier, j'avais plein de petites pommes, plein de petites. Mais elles se gênaient les unes les autres. Et elles n'ont pas toutes grandi, grossi, mûri comme il l'aurait fallu. Donc il y a des drôles de choses qui peuvent se passer un petit peu dans la nature. Et ici Jésus il dit, celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les inquiétudes du monde d'un côté et l'attrait trompeur des richesses étouffe la parole et elle devient stérile. Et là aussi, encore une fois, ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est il nous reste dans notre cheminement, dans la vie, un certain nombre de choses qui peuvent batailler contre la parole de Dieu en nous. L'apôtre Paul, dans Romains 7, il parle de cette bataille dans laquelle il vit tous les jours. Il dit « Je fais les choses que je ne veux pas et je ne fais pas les choses que je veux ». Et puis souvenez-vous aussi de ce texte sur lequel j'ai pu apporter une prédication une fois, dans l'Ancien Testament, là où Dieu dit, avant d'entrer dans le territoire, il leur dit, mais si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des échardes dans vos yeux et des aiguillons dans vos flancs. Ils seront vos adversaires dans le pays que vous allez habiter. Et Dieu nous met en garde dans sa parole. Mais souvent dans notre vie, fait des compromissions. On se dit, je vais m'arranger. Il y a un certain nombre de choses. Si j'arrive à faire ça et ça, ensemble. Et en fait, le Seigneur, il dit, non, c'est pas toujours possible. Et il nous faut par défaut débusquer ce qui reste dans notre vie qui va empêcher que cette parole s'épanouisse complètement. Il y a des pratiques que nous avons héritées ou que nous avons cultivées. Il y a des projets que nous poursuivons dans un domaine qui ne sont pas tout à fait peut-être ceux que le Seigneur souhaiterait. Et à ce moment-là, on se retrouve tiraillé entre les deux. Ou alors on se dit, le monde tel qu'il est là dehors, je ne sais pas trop comment le Seigneur est en train de gouverner toutes ces choses-là, donc j'ai intérêt à lui donner un coup de main. Je vais faire un petit peu les choses à ma façon aussi dans ma vie, etc. Et tout, et je me laisse oppresser par les inquiétudes du monde dans lequel nous vivons. Et le Seigneur, il dit non. Allez, on débusque. Et là, c'est un terrain qui n'a pas été préparé suffisamment. Et c'est là où la lecture de notre parole doit nous servir, non pas simplement à obéir au Seigneur, de lire sa parole et méditer sa parole tous les jours, mais plutôt de me dire comment est-ce qu'en lisant la parole aujourd'hui, je prépare le terrain pour une semence demain. Comment est-ce qu'aujourd'hui je suis en train de débusquer des choses dans ma vie parce que le Seigneur est en train de m'en parler, etc. et tout, mais qui m'aideront demain à porter plus de fruits. Et le Seigneur ici nous dit, comme quelqu'un qui prépare bien son terrain, retourne-le, enlève les mauvaises herbes, enlève tout ce que tu peux, désinfecte-le, balance de la javel dedans, mais tue tout ce qui est dedans avant de semer quelque chose. Et ici, c'est là où il dit, ma parole, elle sert à ça aussi. Elle sert à t'aider à aller débusquer ces choses-là, parce qu'un jour ou l'autre, ça va tirailler. Et là, sans m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que le confort matériel dans lequel nous vivons, et encore plus dans notre bon pays de Jacques, et encore plus avec des taux de change qui jouent en notre faveur, waouh! Et on peut faire plein de choses qui nous disent « Mais non, moi je le fais bien pour le Seigneur, je donne aussi, etc. Et » tout. Mais à quel point est-ce que nous avons bâti nos vies autour de ce confort et autour de... Allez, je tire sur personne, parce que je suis dedans, etc. Et tout. Mais je veux dire, c'est vrai, lorsqu'on regarde le reste du monde, on regarde d'autres chrétiens et tout, c'est fou comme les gens arrivent à vivre avec moi. Et quelquefois mieux. Et si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous avez, sur Internet et puis à plein endroit, mais il y a des mouvements maintenant qui s'appellent des mouvements minimalistes, ou des mouvements où on est en train unclutter, pas la décroissance, c'est le... Il y a la décroissance aussi, mais c'est de se défaire de tout le bazar qu'on a à la maison, parce qu'on a beaucoup trop de choses, en quintuple exemplaire, etc. Et tout. Et les gens sont en train de dire, s'il ne faut pas simplement faire ça parce que d'autres ne l'ont pas, mais faites-le parce que vous vivrez beaucoup mieux. Il y en a un même, je veux dire, et c'est des mouvements vraiment importants qui existent aujourd'hui. Il y en a un qui a écrit un truc qui dit, voilà les 57 objets que je possède. Il dit, voilà comment ça me suffit. Se défaire d'un certain nombre de choses. Et c'est là où, quand je parlais de ces thèmes qui trouvent des résonances dans l'Écriture, moi, il y en a trois qui me viennent à l'esprit en pensant à ça. C'est d'abord l'apôtre Paul qui, lui, utilise l'image de se dévêtir du vieil homme pour revêtir le nouvel homme. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à revêtir simplement un nouvel homme en gardant ce qu'on avait avant. Il y a un double mouvement qui doit se créer dans notre vie. Et l'apôtre Paul nous exhorte à cela. Dévêtez-vous de ce que vous aviez pour mettre de nouveau. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas porter 3 ou 4 manteaux à la fois. Il y a un moment ou un autre, il faut en retirer certains pour mettre le nouveau. Donc l'apôtre Paul, lui, il va abonder dans ce sens-là, en disant notre vie chrétienne, c'est un processus de se dévêtir de certains comportements, de certaines attitudes, de certaines pensées, pour en revêtir d'autres. Une autre image que lui, il utilise aussi, c'est celle de courir et de l'athlète. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez ce verset dans Philippiens. Il dit, en ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Et il dira, celui qui regarde derrière en même temps qu'il fait ce qu'il fait, il va perdre de précieuses secondes et il risque de se prendre les pieds dans le tapis. Et puis, voilà. Et donc, on a cette image, là, encore une fois, c'est que notre but n'est pas simplement de stagner, de ne pas faire le mal et puis on reste sur place. L'idée, c'est de quoi est-ce que je me débarrasse pour obtenir plus encore ou différemment. Et ça, c'est le mouvement de la vie chrétienne dont nous parle l'apôtre Paul. Et puis, la troisième image, qui n'est pas toujours beaucoup exploitée, mais qui est intéressante aussi, c'est celle de imiter. Imiter le Seigneur, mais l'apôtre Paul, lui, il est courageux, il dit, imitez-moi. Ou alors l'Épître aux Hébreux, il dit « imitez les hommes de foi ». Moi, je n'imite pas beaucoup de gens. Moi, la plupart des gens que je regarde, je ne veux pas faire comme eux. Et pourtant, l'apôtre Paul, il nous dit, mais à un moment, mais soyez mes imitateurs. Regardez les gens de foi, imitez-les. Regardez Jésus-Christ, imitez-le. Et on sait souvent que c'est par la pratique et l'imitation que peu à peu, on développe une propre pratique pour soi. Et le Seigneur est très pratique. À un moment, il dit, t'as pas le courage de le faire toi-même, etc. Et tout, tu sais quoi ? Ben, copie. Copie ce que font les autres. Et tu verras, avec mon esprit, ça deviendra une habitude, ça deviendra ce que tu veux, et ton comportement se changera. Enfin, la dernière terre, c'est la bonne terre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il nous a dit, Jésus, il nous dit, c'est celui qui entend, qui comprend, et qui porte du fruit. Il y a trois éléments là. Il y a le fait d'entendre la parole, mais il y a aussi le fait de la comprendre et de porter du fruit. Et là, c'est cet élément qui est extrêmement important aussi, c'est que la parole n'est pas simplement quelque chose que l'on entend et qu'on garde dans notre tête, mais c'est quelque chose qui provoque et qui doit provoquer un comportement. Et là, ça m'est revenu comme ça, en repensant à cette lettre de mission que le Seigneur nous donne par rapport à la proclamation de l'Évangile, c'est d'aller de proclamer cette parole, mais aussi d'enseigner les disciples à mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Donc il y a une dimension de mise en pratique et de comportement. Et donc là, pour être dans un sens cette bonne terre, c'est de pouvoir laisser cette graine venir en nous, mais pas simplement la comprendre et puis avoir une grosse tête et de pouvoir l'expliquer et de s'en réjouir le dimanche matin au culte, mais que ça provoque des changements dans notre comportement et dans notre vie de tous les jours. Ainsi donc, nous sommes appelés à comprendre cette parole, à prendre le temps de la comprendre. Et là, je vais faire écho à ce que dit Pierre souvent, mais parce qu'on en parle souvent aussi, c'est que nous sommes appelés à changer notre façon de penser d'abord et avant tout. Un renouvellement de notre intelligence. C'est un thème que l'apôtre Paul ne parle pas simplement dans l'Épître aux Romains, mais dans plusieurs de ses épîtres, il dit d'abord et avant tout, il faut que vous arriviez à penser différemment et à comprendre différemment, parce que les pensées de Dieu ne sont pas les vôtres. Et ce n'est pas qu'elles sont incompréhensibles, c'est tout simplement un moment ou un autre. Moi je pense comme ça, tiens Seigneur, toi tu penses comme ça. Je me force à un moment à penser différemment. Et moi qui cherche et qui souhaiterait tellement avoir la paix et la joie du Seigneur, comme en parle l'apôtre Paul avec tout ce qu'il a vécu, il dit ben là-dedans, moi j'avais la paix et la joie, là-dedans j'avais. Et c'était les bons moments, les mauvais moments, il avait la paix et la joie, etc. Et tout. Mais il y a un moment ou un autre où il faut arrêter de dire ben, j'y arrive pas, puis de dire mais Seigneur, comment est-ce que toi tu penses? Et pourquoi est-ce que tu dis qu'on peut avoir la paix et la joie? Et là, on se rend compte que ce que lui dit, le fondement de notre paix et de notre joie, est totalement différent de ce que nous pensons être la paix et la joie. Moi, la paix et la joie, c'est je suis bien avec les gens, je rigole, tout va bien, les circonstances sont bien. Lui, il dit non, la paix et la joie, c'est que tu vas les enraciner dans autre chose que tes circonstances, tu vas les enraciner en moi. Tu vas les enraciner dans l'espérance que tu as. Tu vas les enraciner dans ma parole. Et tu as vécu assez longtemps pour savoir que les circonstances ne sont pas toujours les meilleurs moyens d'avoir la paix ou la joie. Parce que tu peux être très bien dans tes circonstances et encore être rongé de l'intérieur. Tu peux être très bien dans tes circonstances, avoir un très bon compte en banque, mais ça va te ronger parce que tu ne sais pas où le placer quand les Suisses vont commencer à te piquer du fric, des intérêts négatifs. Et là, le Seigneur, il dit, tu dois enraciner les raisons de ta paix et de ta joie dans autre chose que les circonstances et ce que tu as. Tu dois les enraciner en moi. Et si je ne prenais pas le temps, moi, de penser et d'écouter l'Écriture pour savoir comment elle m'explique et où se trouve cette paix et cette joie, il n'y a aucun moyen par lesquels moi je puisse changer mes circonstances pour arriver à cette paix constante et cette joie constante que le Seigneur me promet. Et c'est là où il faut comprendre la parole. Il faut la comprendre, parce qu'ensuite, elle nous permet d'agir et d'agir différemment. Mais il ne suffit pas, comme dit l'apôtre Jacques, de nous regarder dans un miroir, on a lu la parole, on l'a vue, puis on se retourne et puis on s'en va. Non, on la regarde et on agit ensuite. Je vous invite à un deuxième moment de simplement de silence, après quoi je conclurai avec quelques versets. Mais prions aussi, peut-être il y a certaines choses que j'ai dites ou certaines de ces images qui trouvent un écho chez vous. Mais je vous invite encore une fois à apporter cela au Seigneur et lui dire, Seigneur, aide-moi à labourer ce terrain, aide-moi à le préparer, aide-moi à faire les choix qu'il faut, sachant que si je te choisis toi, je choisis en fait la bonne part. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te dire que nous voulons préparer le terrain que nous sommes pour recevoir ta parole. Et nous voulons recevoir ta parole, Seigneur, parce qu'elle est tellement bonne et tellement efficace. Elle est tellement vivifiante, elle est tellement rassurante. Et Seigneur, c'est ce trésor que nous voulons. Et Seigneur, je voudrais te demander que tu nous aides maintenant, que nous soyons un terrain ou un autre, mais que ces images, Seigneur, restent dans notre tête afin que nous puissions nous regarder nous-mêmes pour voir, Seigneur, là où nous pouvons préparer notre terrain mieux encore pour laisser cette parole et cette semence éclore et grandir. Seigneur, pardonne-nous si c'est dans des moments de révolte que nous le faisons, mais viens aussi à notre secours lorsque nous nous sentons faibles. Viens aussi au secours de notre ignorance lorsque nous n'avons pas vu et donne-nous de la sagesse et de l'intelligence pour voir et discerner. Mais Seigneur, que nous puissions aussi nous exhorter les uns les autres, nous encourager à, Seigneur, labourer notre terrain. Et ce matin, Seigneur, encore avec la foi qu'avait David, mais avec une grande confiance en toi, Seigneur, nous voulons te prier que tu viennes et que tu nous sondes jusqu'au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, afin non pas de nous montrer à quel point nous sommes sales et mauvais, mais plutôt, Seigneur, tout simplement pour que nous puissions retourner cette terre et que ta parole puisse agir en nous. Seigneur, te bénissons parce que ta parole, elle est vivante, elle est agissante. Elle est beaucoup plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, et parce qu'elle peut rentrer au fin fond de nous-mêmes, Seigneur, et nous aider, et faire jaillir la vie en nous. Seigneur, béni sois-tu pour cette parabole. Béni sois-tu pour ton enseignement que tu nous as laissé. Et Seigneur, maintenant que nous puissions tous être une terre qui est perméable, et que ce que tu nous as enseigné ce matin puisse entrer en nous et porter du fruit. Au nom de Jésus, amen.
Je partage avec vous les annonces concernant le programme de la semaine. C'est une semaine déjà bien remplie. Demain soir, conseil à 19h30. Commission vie d'église et communion fraternelle à 20h. Mardi, c'était prévu l'étude biblique. Alors, on va décaler l'étude biblique d'une semaine et on va décaler la cellule de la semaine prochaine à la semaine d'après aussi d'une semaine. Comme ça, on arrive un petit peu à lisser la charge des rencontres par semaine, ce qui, en plus, avec la neige, est certainement une bonne chose. Donc, mardi soir, rien ici. Mercredi, Assemblée Générale à 20h, comme ça a déjà été annoncé. Alors, tous les membres sont bien sûr invités. Pour ceux qui peuvent venir, c'est bien, c'est très bien. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, qui ont des empêchements, eh bien, on vous invite à vous faire représenter, c'est-à-dire à transmettre le pouvoir à un autre membre en qui vous avez pleine confiance. Mais cette Assemblée Générale, comme toutes les Assemblées Générales de l'association, sont ouvertes aux autres personnes, aux personnes qui ne sont pas membres, qui participent régulièrement. Vous êtes les bienvenus, vous êtes même encouragés à venir. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas voter. Mais ce n'est pas grave, venez quand même. Donc, mercredi à 20h. Pensez bien de venir à 20h, parce qu'à 20h30, vous aurez une demi-heure de retard. Jeudi, il y a déjà une proposition, quelque chose qui est proposé à 19h30. C'est la Saint-Valentin en avance. La Saint-Valentin, ça tombe comme toutes les années le 14 février. Et pour la Saint-Valentin, Alpha Couple, elle et lui, organisent un repas. Et donc, comme ça tombe pendant les vacances, ils ont avancé ce repas à jeudi prochain, jeudi qui vient, donc le 5, à 19h30, à Échenevée. Alors, pour ceux qui sont intéressés, j'ai oublié d'imprimer le flyer, mais si, pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi. C'est jeudi prochain, donc il ne faut pas traîner. Il faut tout de suite s'inscrire. On peut s'inscrire par email ou sur leur site. Donc, c'est valable pour ceux qui sont intéressés par les cours Elle et lui, donc les cours qui sont donnés pour les couples. C'est valable aussi pour ceux qui ont déjà participé à un cours et qui veulent mettre cette soirée de côté pour leur couple. Donc n'hésitez pas, c'est important aussi ces activités qui nous sont proposées en dehors du cadre de l'église, mais dans le cadre des différentes églises du Pingex. Jeudi, il y a aussi la chorale à 20h30. Samedi, groupe de jeunes à 20h. Dimanche prochain, culte ici. Mardi d'après, donc le mardi 10, il y aura l'étude biblique des aînés. Une autre information aussi à partager, vous savez que le club d'été va se dérouler donc du 13 au 17 juillet et les inscriptions sont ouvertes. Donc il y a tout ce qu'il faut sur le site de l'église, le lien et tout, pour se rendre pour pouvoir s'inscrire en ligne. Continuons de penser aussi à Guylaine, qui j'imagine qu'elle est rentrée de nouveau à l'hôpital vendredi pour des examens. Continuons de penser aussi à Eric, le papa de Rebecca. Donc, il a reçu les résultats des examens, qui sont fort encourageants parce que toutes les cellules malignes ont pu être enlevées. Tout ce qui était malade a pu être enlevé. Donc, ce qui signifie une reprise plus facile. Pas de chimio en vue, pas d'autres interventions en vue. Ce qui aide aussi pour le moral. Donc, mais continuons de penser à lui parce que ce n'est pas fini. Il y a encore un temps pour se remettre suite à l'opération et à ce qui suit l'opération. Mais soyons aussi reconnaissants par rapport à cela. Il reste des calendriers. Calendrier 2015, alors on est le 1er février. On vous propose de vous les donner. Parce que c'est important que ces calendriers soient distribués, qu'ils ne restent pas ici, puis qu'ils finissent à la poubelle, ce serait vraiment dommage. Donc, à la sortie, Anne-Marie se tiendra au fond de la salle. N'hésitez pas, c'est important de les prendre et de les distribuer. Cette semaine, on vous invite à prier pour la Libye, dans le cadre des pays persécutés. On vous invite à prier pour la Libye. La Libye, c'est un pays qui était persécuté pour différentes raisons avant les printemps arabes. Et c'est un pays dans lequel la persécution reste forte pour d'autres raisons. Le gouvernement a changé, mais ce n'est en tout cas pas plus simple d'être chrétien en Libye aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc, pensons vraiment à l'Église en Libye. Je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets pour clore ce culte dans Éphésiens. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.